La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Venez et voyez. Soyez dans la joie. Alléluia, alléluia. Les Écritures l'avaient annoncé. Jésus-Christ est ressuscité. La mort ne peut anéantir celui qui est la vie éternelle, celui qui est la lumière du monde, celui qui est le Verbe de Dieu, celui qui est le tout amour. Alléluia! Alléluia! Nous qui sommes ses disciples, devenons les pierres vivantes de l'Église du Christ ressuscité.
Ce matin, donc, la lecture se fera en deux temps. Le premier livre dans lequel nous allons lire le texte se trouve dans Amos 3, au verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le deuxième texte se trouve dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 4. Alors c'est un petit peu plus long, du verset 4 au verset 16. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il est dit, « Étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Or, que signifie « il est monté en haut » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, mais par leur ruse dans les moyens de séduction.
Bonjour, chers frères et sœurs. Le sujet que j'aimerais vous présenter ce matin concerne le don spirituel de prophétie dans l'Église adventiste. Alors, j'ai préparé un texte qui est assez copieux, avec beaucoup de références bibliographiques et bibliques, que je ne vous imposerai pas, mais tous ceux qui veulent avoir ce texte pourront l'avoir, soit en donnant au diacre leur adresse internet et puis je leur enverrai par email, soit j'ai quelques exemplaires photocopiés, papier, pour ceux qui ne sont pas connectés. Le don spirituel de prophétie dans l'Église adventiste. Il m'a semblé qu'il était important de parler de ce sujet et d'essayer de présenter ce don qui est important, mais qui est quelquefois mal compris ou mal utilisé. Dans l'ouvrage « Témoignage pour l'Église », je lis ces lignes qui sont des lignes introductives. J'eus le 5 mai 1855, une vision dans laquelle il me fut montré que les serviteurs de Dieu, aussi bien que l'Église, manquaient de foi. Et un peu plus loin, le texte continue, « Vous ne devez pas douter des promesses de Dieu si vous constatez que vos prières ne sont pas exaucées sur le champ. Il me fut montré que la situation était la même que lorsque les enfants demandent quelque chose à leurs parents. Il fera droit à la requête au moment opportun, au-delà même de ce qui était attendu. Si j'ai choisi ce texte, c'est pour montrer que dans cette citation, Ellen White, puisque c'est l'auteur de ce texte, est vraiment orientée vers la pratique, l'exaucement et la vie spirituelle pour mieux vivre, profiter des promesses de Dieu. C'est donc un travail d'exhortation, de réconfort, de construction, d'édification à la fois personnelle et communautaire à laquelle elle est appelée. Mais peut-être avez-vous remarqué que dans cette lecture est mentionné « J'eus une vision, il me fut révélé ». Ce texte est répété deux fois. Cette citation, donc, qui date de 1855, donne le ton. L'auteur, Ellen White, affirme que son ministère, le contenu de ses propos, viennent d'une révélation divine. Alors, face à quelque chose d'aussi extraordinaire, on est en droit de se poser les questions. Qu'on puisse y croire ou non, le fait, l'affirmation est là. Or, il est suffisamment extraordinaire pour qu'on lui consacre une étude. Ces affirmations, je répète, ont été écrites ça correspond à une vision qui s'est passée en 1855 et c'est donc très antérieur à la fondation de l'Église, antérieur de 8 ans à la fondation de l'Église en 1863, de l'Église adventiste du 7e jour. Voilà le cadre historique. L'Église, ce n'est pas dans l'Église adventiste que s'est manifesté le don de prophétie par Madame White, mais ce don de prophétie a été un des éléments intervenant pour que ce mouvance adventiste, au début, au milieu du 19e siècle, la mouvance adventiste a regroupé, vous savez ce que signifie le mot adventiste, ça signifie qui attend le retour du Christ, eh bien, beaucoup de personnes ont été sensibilisées à ces signes des temps et au fait que le moment qu'il vivait était important et qu'on approchait des temps de la fin. Mais toutes ces personnes appartenaient à différentes communautés. Il y avait des méthodistes. Madame White était méthodiste. Il y a des presbytériens, des congrégationalistes. Il y avait tout un rassemblement de personnes d'une communauté, de plusieurs communautés. Et c'est seulement beaucoup plus tard, 8 ans plus tard, que la notion d'église adventiste va se constituer. Alors mon premier point, c'est que je voudrais vous souligner que la notion, enfin le nom, le titre de notre Église, Église adventiste du 7e jour, est en cohérence avec la notion d'esprit de prophétie. Premièrement, la notion d'Église. Nous avons lu, ou entendu, dans le texte que nous a lu Catherine Reuters, que pour édifier l'Église, pour le développement de la communauté et de chacun, eh bien, Dieu a suscité un certain nombre de ministères dans l'Église, a suscité des apôtres. Et peut-être avez-vous remarqué que dans cette succession des ministères qui comprend les évangélistes, qui comprend les enseignants, qui comprend les pasteurs, immédiatement après les apôtres, chose curieuse, tout de suite après est mentionné les prophètes. Et ça pose une question, parce que nous sommes habitués à avoir des prophètes dans l'Ancien Testament, nous sommes habitués à avoir des prophètes dans le Nouveau Testament, dont l'Apocalypse est un exemple particulier, mais après, dans l'histoire du christianisme, on a l'impression que ce ministère disparaît. Et effectivement, il est extrêmement peu représenté. Or, c'est quand même curieux que dans les ministères donnés à l'Église, tout de suite après les apôtres, ce sont les prophètes. Il semble qu'il y a une déperdition de connaissances, une déperdition de dons spirituels. La notion d'Église implique la notion de prophète, et pas seulement au temps biblique, mais tout au long de l'histoire de l'Église, et ça, il faut reconnaître que ça s'est beaucoup perdu. Donc la notion d'Église implique la notion de prophète. Mais nous appartenons à l'Église adventiste. Qui dit adventiste dit attend le retour du Christ. Il faut remarquer que, et ceci a été rappelé par la lecture du prophète Amos, le Seigneur ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Or, nous voyons qu'à chaque fois qu'au cours de l'histoire, il y a eu un grand événement, on pourrait tous les citer, le déluge, l'exil, la déportation, et de nombreux événements, à chaque fois, il y avait un prophète. Juste avant la venue de Jésus, il y a eu cet homme dont on dirait qu'il est le plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste. Alors, est-ce que l'on peut penser ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste ? Alors, est-ce que l'on peut penser qu'avant l'avènement le plus important de l'histoire du monde, qui est le retour du Christ, la fin des temps et l'inauguration du règne de Dieu, cet événement-là serait un événement qui ne serait pas précédé par la manifestation des prophètes ? Je crois que la notion de retour du Christ, comme la notion d'Église, implique la notion d'esprit de prophétie. Et puis, en fin de compte, nous sommes Église adventiste du septième jour. Et là, il y a toute une autre réflexion qui montre que, à chaque fois que le peuple de Dieu, en particulier dans l'Ancien Testament, abandonnait la loi, dont le quatrième commandement est un des éléments importants, eh bien, le texte, hein, je pourrais vous lire un texte, c'est le texte qu'on trouve dans Lamentation, chapitre 2, verset 9, « Il n'y a plus de loi, et ses promesses ne trouvent plus de vision venant du Seigneur. » Quand il y a une apostasie, eh bien, à ce moment-là, Dieu se retire. Mais par contre, quand le peuple revient à la loi, alors se manifeste le don de prophète pour encourager cela. Ainsi donc, il y a, et c'est mon premier point, si vous voulez, une triple cohérence. La notion d'Église, la notion de retour du Christ, la notion de retour et de fidélité à l'ensemble des commandements, sans mettre la notion de retour et de fidélité à l'ensemble des commandements, sans mettre de côté l'un d'entre eux, implique que Dieu, à ce moment-là, peut parler par les prophètes. Alors, deuxième point, quelques rapides éléments d'histoire. Dans l'Église adventiste, nous avons eu le ministère d'Ellen White. Elle ne s'appelait pas Ellen White de son nom de naissance, elle s'appelait Ellen Harmon. Elle naît en 1827 dans le nord-est des États-Unis. À 9 ans, elle reçoit une pierre qui est jetée en plein visage et elle risque de perdre la vie. Elle est restée inconsciente assez longtemps et puis, petit à petit quand même, elle arrive à récupérer mais reste affaiblie et incapable en particulier de suivre une scolarité normale. À l'âge de 11 ans, elle se convertit et est baptisée dans l'église méthodiste. Et puis en 1840, se lève William Miller qui prêche le retour de Jésus avec une interprétation évidemment qui ne sera pas confirmée du retour au mois d'octobre 1844. Mais elle est touchée par le message de William Miller. Elle attend son retour avec beaucoup de joie, avec beaucoup de... Et puis c'est la grande déception. De décembre de la même année, 1844, à 17 ans, lors d'une réunion de prière, elle témoigne avoir reçu une vision. Et elle raconte cette vision. Alors on la trouve, vous pouvez trouver cette vision dans les écrits des témoignages. En résumé, elle voit le peuple adventiste qui monte par un chemin qui est difficile, douloureux, peu lumineux, vers la hauteur. Et puis il y a une lumière qu'on appelle le cri de minuit. Et enfin, elle arrive face à Jésus qui elle participe au paradis. Et quand elle se réveille de cette vision, qu'elle reprend son état normal et non plus son état extatique, eh bien elle sent une grande tristesse parce qu'elle vivait vraiment le bonheur dans le paradis avec Jésus et avec tous ses frères et sœurs, et elle regrette de ne pas y être. Alors évidemment, c'est un phénomène que, au point de vue rationaliste, eh bien, qui est surprenant. Moi, je dois vous dire personnellement que je ne crois pas être, comment dirais-je, je crois que je me pose des questions, j'aime bien comprendre, et a priori, en vous disant ça, si quelqu'un me disait la même chose, j'aurais un certain scepticisme. Je voudrais, dire qu'il faut vraiment des preuves et des expériences pour arriver à reconnaître et apprécier ce don. Alors, mon troisième point, c'est vous faire partager l'expérience de trois hommes qui avaient les pieds sur la terre, qui étaient sceptiques, parce qu'évidemment, le ministère de Madame White a eu, et c'est assez logique, c'est cohérent, ses détracteurs. Est-ce que c'est pas quelque chose? Il y a des gens qui ont dit qu'elle était une malade mentale, qu'elle était illuminée. On a lui reproché beaucoup de choses. Alors, très rapidement, trois exemples. Daniel Bourdeau, c'était un jeune baptiste d'origine française qui accepta le message adventiste. Et quand il a entendu parler de Madame White, eh bien, il était très, très, très sceptique, il n'y croyait pas. Je passe très rapidement sur les événements. Et puis, un jour, il a été témoin dans une rencontre où Madame White a reçu une vision. Et avec l'assentiment de son mari, James White, eh bien, il a été voir Madame White et lui a même pincé les narines. Et pendant tout le temps de la vision, il a pu s'assurer que Sir White ne respirait pas. Alors là, il y a un phénomène qu'on doit constater. Nous touchons quelque chose qui est hors du commun, hors du naturel commun. Est-ce qu'il faut le rejeter pour autant? Il faut, je crois, avoir un esprit honnête, de réflexion, d'examen, pour voir si ceci est vrai, d'une part, et si ceci est conforme à la parole de Dieu. Deuxième événement, Madame White a beaucoup voyagé dans le monde entier, en Europe, en Australie, et quand elle arrive en Australie, elle rencontre dans une imprimerie le trésorier de l'imprimerie, et en le voyant, elle reconnaît quelqu'un que Dieu lui a montré en vision. Et c'était un homme qui passait par une crise spirituelle, qui avait des quantités de problèmes, il appartenait à une loge maçonnique, enfin c'était très très compliqué. Et elle a pu lui parler. Et cet homme a été très, très frappé parce que dans la conversation que Madame White a eue avec lui, eh bien, Madame White a employé et a fait des gestes qui étaient des gestes inconnus d'elle-même et qui étaient des gestes que les francs-maçons, entre eux, dans cette société secrète, accomplissaient. Il a été absolument bouleversé et il a écouté le message que Madame White avait pour lui, et ça lui a permis de se rétablir et, après de grandes luttes, d'être fidèle dans sa foi et d'abandonner ses pratiques qui étaient peu conformes à la pratique d'un chrétien. Alors voilà, un troisième exemple aussi. Ah oui, l'exemple de Joseph Betts. Joseph Betts est un homme, prédicateur, qui, outre ses études de la Bible, était un passionné d'astronomie. Il avait un une grande lunette, il aimait bien étudier les astres. Et puis, quand on lui a parlé de Madame White, il a plaisanté en disant qu'il pensait que c'était une illuminée. Et en 1846, Ellen White eut une vision. Et quand elle a raconté cette vision, Joseph Bates était présent. Et à ce moment-là, Joseph Bates savait que Madame White avait une éducation, scolaire très, très élémentaire, qu'elle ne pouvait pas connaître un certain nombre de choses qu'elle racontait, mais que lui, ayant étudié et observé le ciel, a reconnu pour vrai. Et là, sa position concernant Madame White a complètement changé. Donc, voilà quelques témoignages, on pourrait les multiplier, mais la grande aiguille est inflexible, elle tourne, donc je dois veiller au temps. Voilà quelques exemples qui montrent qu'il y a quelque chose de curieux, d'anormal, de surnaturel. Ça ne prouve pas que le ministère de Madame White soit d'origine divine. Elle le reconnaît elle-même. Voici une citation. Mon œuvre, pendant ces 30 dernières années, porte l'empreinte de Dieu ou de l'ennemi. Il n'y a pas de demi-mesure dans ces affaires. Il y a quelque chose de surnaturel. Mais quand on touche le domaine du surnaturel, ce qui est extrêmement délicat, difficile, dangereux, il peut y avoir du surnaturel divin, il peut y avoir du surnaturel satanique. Est-ce que ce surnaturel satanique, c'est l'application de Matthieu 24, dans les derniers temps, il y aura des esprits qui séduiront les gens, il y aura des faux prophètes. Est-ce que c'est le vrai prophète dont parlent d'autres textes, comme Joël, dans les derniers temps, je susciterai. Il y a phénomène surnaturel. Qu'est-ce qui nous permet de faire la différence et faire le tri entre le faux prophète ou au contraire l'application de ce texte prophétique qui annonce pour la fin des temps le fait que Dieu suscitera des prophètes? Eh bien, le principe biblique, c'est le principe qui est donné par la Bible elle-même. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si le sujet vous intéresse, je me permets de vous recommander la lecture de ce livre qui n'est pas très récent, mais qui est tout à fait de George Knight. George Knight est un auteur adventiste, professeur d'université, qui est un homme qui écrit des livres tout à fait sérieux, bien construits, bien étoffés, bien justifiés. Et il donne des conseils très très intéressants dans ce petit livre, « Lire Ellen White ». Il donne aussi un certain nombre d'évidences qui permettent de voir que Madame White a été non pas un faux prophète suscité par Satan, mais vraiment une femme qui a écouté le message de Dieu et qui a essayé de le retransmettre. Vous savez peut-être qu'au moment où quelques années avant que Madame White se manifeste, eh bien, deux hommes ont été suscités par Dieu avec des visions. Et quand Madame White et ces hommes-là ont reçu des messages de Dieu, et il fut dit à l'un d'entre eux que s'il refusait, eh bien, Dieu agirait par un instrument beaucoup plus faible que lui, mais qui aurait la possibilité d'être entendu. Et quelque temps après, eh bien, quand Madame White racontait la vision qu'elle a eue, cet homme-là était présent et il a été bouleversé parce que c'était exactement la vision qu'il avait reçu, mais qu'il n'avait pas transmis par faiblesse, par timidité, par peur. Et cet homme-là a parlé à Madame White et l'a encouragé à être fidèle, à la différence de lui qui n'avait pas été fidèle. Donc Madame White est une femme de réflexion, d'action, une messagère fidèle. Alors, un autre point maintenant, c'est que lorsqu'on étudie la vie et l'œuvre de Madame White, on peut remarquer qu'elle-même n'a jamais utilisé le prophète. Elle a préféré se dire messagère du Seigneur. Elle a toujours, me semble-t-il, avec humilité, avec, courage, transmis, souvent dans des situations difficiles, le message que Dieu lui a confié. Je me permettrai de citer quelques points où Madame White a eu un ministère particulier. Elle a donc épousé James White, son mari, en 1846, et ils se sont lancés dans la prédication de l'Évangile dans des conditions très difficiles. Actuellement, les pasteurs ont la possibilité de recevoir un salaire mensuel. Ils ont donc une assurance. James White n'avait personne pour le salarier. Et pour son ministère, eh bien, il a été bûcheron, il a été homme de peine dans la construction des voies ferrées, il a travaillé très très dur, peut-être d'ailleurs c'est ce qui a fallu qu'il décède prématurément, il est mort jeune à 60 ans. Madame White, à partir de 1881, continuait ce ministère. Elle s'est investie, alors j'ai quelques points ici très rapides. On lui doit une œuvre très importante au niveau des publications, des revues, des brochures, des livres. Deuxièmement, une réflexion importante en domaine de l'éducation, aussi bien personnelle que familiale et scolaire. Troisièmement, une œuvre sanitaire de très grande importance, remettant en évidence les lois de l'hygiène, les lois de la santé. Quatrièmement, une lutte, et ça c'est important, contre le fanatisme et toute forme d'exaltation mystique. Madame White était une mystique, mais elle n'était pas exaltée. Cinquièmement, l'organisation et le financement de l'Église. À l'époque où Madame White a commencé son ministère, dans l'Église adventiste, si ça vous intéresse, c'est très bien écrit. Peut-être connaissez-vous cette revue dont nos périodiques ont fait part. C'est une nouvelle revue de la faculté de théologie qui s'appelle Servir. C'est le numéro 1. Et bien, dans ce numéro-là, il y a plusieurs articles qui montrent que, à cette époque-là, chose curieuse, le fait de se constituer en église ou le fait de prendre un nom était considéré comme une hérésie. Et si l'église adventiste a pu se constituer, ce n'est pas elle qui l'a constitué, bien sûr, mais c'est grâce à son inspiration et à son conseil. Sixième point dans lequel elle a beaucoup travaillé, c'est la conception mondiale de la proclamation de l'Évangile. Autre point qui, lorsqu'on lit, et toujours c'est écrit, est expliqué là-dedans, c'est pour ça que cette revue, je vous la recommande, l'abonnement est très bon marché, ça coûte à peu près 1,20€ par mois. C'est une dépense qui me semble... Alors, ce n'est pas une revue qui est faite pour les théologiens, c'est une revue qui est faite pour le membre d'église. Il n'y a pas de langage difficile, ça demande une lecture sérieuse, attentive, mais ce n'est pas un ouvrage technique. Eh bien, dans cet ouvrage, on raconte, chose curieuse, que aux États-Unis, on pensait que Jésus allait revenir et on n'envisageait pas du tout des missions dans le monde entier. Il disait ceci, ça nous semble bizarre. Aux États-Unis, il y a des représentants de toutes les nations. Donc si on prêche l'Évangile aux États-Unis, on a prêché à toutes les nations. Et pas besoin d'aller en Europe, en Australie. Jésus va revenir dans quelques années, il faut sauver les meubles. Et Madame White a été de celles qui ont montré que prêcher l'Évangile à toutes les nations, ce n'était pas prêcher seulement à des Américains, mais prêcher à d'autres nations, à d'autres continents. Voilà quelques exemples. Et puis, dernier point, le septième, simplement un élément que l'on peut considérer comme détail, et pourtant il est très important, il y avait à ce moment-là des lois extrêmement dures aux États-Unis contre les Noirs. Il y avait une loi, vous verrez le terme technique dans le texte, qui faisait que un esclave noir maltraité était en fuite, eh bien, on devait absolument le prendre et le remettre à son propriétaire. À cet exemple-là, elle a dit quelque chose de difficile. Je ne sais pas si je vais retrouver ma citation. Elle dit qu'il ne faut pas... Elle a pris position, fait et position contre cette loi des États-Unis en disant que ce n'était pas une loi qui venait de Dieu. Et qui, voilà, c'est la loi s'appelait le Slave Fugitive Act. Et à ce propos-là, elle écrit en 1859, « La loi de notre pays qui requiert de rendre l'esclave à son maître ne doit pas être obéie. Nous devons supporter les conséquences de la violation de cette loi. L'esclave n'est la propriété de personne. » Ça nous semble évident. Il y a 150 ans, c'était révolutionnaire. Voilà quelques exemples de l'œuvre de Madame White à son époque. Alors, dernier point. Eh bien, lorsque nous lisons les textes de Madame White, nous sommes frappés par sa sagesse, son équilibre. Toutefois, il ne faut pas être plus royaliste que le roi ou plus whiteiste que Madame White. Il y a des personnes qui sont whiteistes et qui sont plus whiteistes que Madame White. Elle dit elle-même, c'est très très net, « Je ne suis pas infaillible. Seul Dieu est infaillible. » Et elle dit, et il y a des textes montrants, elle dit « Nous avons beaucoup à apprendre, c'est un texte très célèbre, et beaucoup, beaucoup à désapprendre. » C'est une manifestation extraordinaire d'ouverture. L'Église adventiste, dans son enseignement, n'est pas refermée sur elle-même. C'est un enseignement qui est ouvert à de nouvelles recherches dans la Bible, de nouvelles découvertes, de nouveaux approfondissements. Hein, non pas pour renverser les bases acquises, mais pour les enrichir, pour les compléter. Donc, Madame White n'est pas du tout un marteau pour taper sur la tête du prochain ou pour régler des questions personnelles. C'est un message de lumière, d'ouverture, de bonté, de générosité. Alors, je conclue. Je crois que je suis à peu près dans le temps. On m'a dit qu'il ne faut pas dépasser 30 minutes. C'est un peu stressant parce qu'on veut tout dire, puis on cherche dans ses notes et on ne trouve plus. Nous sommes, me semble-t-il, face à la position de ce don offert à la communauté, en mesure de remercier Dieu. Et de même que nous sommes invités à avoir au cours de l'année une lecture systématique de la parole de Dieu. Il y a des personnes qui lisent la Bible, il y a un plan très bien fait pour lire l'ensemble de la Bible en 6 ans. Il y a des personnes dont je suis, mais ça c'est qui préfèrent lire la Bible chaque année. Hein, et j'essaye, moi, chaque année, de la lire dans une version différente. Cette année, je la lis dans la version hostie. C'est un chanoine catholique. Il y a des notes superbement intéressantes, avec lesquelles je ne suis pas toujours d'accord, mais c'est enrichissant. Donc, il y a un plan qui est proposé à chacun de lire régulièrement la Bible, non pas au hasard. Eh bien, c'est un peu la même chose pour Madame White. Souvent, Madame White, nous la lisons à travers des citations qui sont dans le questionnaire de l'École du Sabbat. C'est intéressant, mais l'idéal, c'est quand même de lire Madame White dans le texte, dans une pensée suivie, pas une citation dépareillée, mais qui émaille telle ou telle doctrine, tel ou tel point de vue, mais de la lire régulièrement à travers des sujets, à travers un livre. Il est bien entendu que des livres comme « Vers Jésus, le meilleur chemin, heureux ceux qui », et puis les grands ouvrages du conflit des âges, ce sont des moments où nous pouvons vraiment comprendre sa pensée et la voir se dérouler. Eh bien, je me permets très, très fraternellement, en toute simplicité, de vous suggérer que de même que vous avez, du moins je l'espère, une lecture régulière et systématique de la parole de Dieu, d'avoir aussi une lecture planifiée de la pensée de Madame White. Il est bien entendu qu'il ne s'agit pas de la substituer aux Écritures, L'étude, la méditation de la parole de Dieu est essentielle, fondatrice, prioritaire. Mais de contribuer précisément par les éclairages que nous trouvons dans les pages de Madame White, de contribuer à enrichir cette connaissance de la parole de Dieu, à enrichir notre vie spirituelle, à nous fortifier. Nous vivons dans des temps difficiles, avec des tentations, des difficultés, des conditions défavorables. Eh bien, il me semble que le fait d'avoir dans notre Église ce don qui peut nous enrichir sera pour chacun d'entre nous, dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale, dans sa vie communautaire, un apport de richesse, d'encouragement, de réforme, de joie et, sans fanatisme, d'avoir une vive spiritualité, une spiritualité plus développée. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement, que le Seigneur puisse nous rédiger par son esprit. Si le Seigneur a parlé à certains de ses prophètes de manière transcendante, de manière extraordinaire tout au long des siècles, depuis le début de la parole de Dieu jusqu'à maintenant, il est évident que par le Saint-Esprit, Dieu, sans que nous ayons forcément l'esprit de prophétie pour nous, la ressource, la joie, le plaisir et la grâce, que Dieu, l'Esprit de Dieu, nous aide dans cette recherche et dans cette vie spirituelle. Amen.